Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour Nathalie Barge pour vous présenter Le Monde aujourd'hui en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition matinale du 25 juin 2014, le Cameroun intensifie les opérations contre le groupe armé nigérian Boko Haram infiltré sur son territoire.
En République centrafricaine, calme précaire à Bambari après 2 jours d'affrontements qui ont fait au moins 18 morts.
Les députés maliens veulent mettre en place une commission d'enquête sur les fraudes massives aux examens scolaires.
Si vous voulez un sujet, vous payez 3000 francs, on vous l'envoie. Et sur votre téléphone, et ce numéro, on vous l'a donné, madame le ministre. Vous dites qu'il y a pas de fuite. Il y a bel et bien fuite au niveau du bas.
Brahima Beridogo interpellant la ministre de l'Éducation en plénière.
Nouvelle déception pour les Africains et particulièrement pour les Ivoiriens après l'élimination en Coupe du Monde des éléphants battus par la Grèce 2-1.
Ça va plus de temps qu'on devait battre. Ils ont joué mal, ils ont découragé mal.
Très déçu de la prestation des Ivoiriens.
Des supporters que nous entendrons dans le journal de la Coupe du Monde, présenté par Nicolas, notre envoyé spécial au Brésil.
Et puis en fin d'émission, nous aurons bien entendu la page musicale proposée par Roger Muntou. Mais tout d'abord, commençons par le journal.
En République centrafricaine, au moins 18 personnes ont été tuées en 2 jours dans des affrontements de représailles entre chrétiens et musulmans. Les violences ont commencé lundi près de Bambari et ont continué mardi à l'intérieur de la ville. Dans un rapport hier, la Fédération internationale des droits de l'homme a déclaré que les anti-Balaka et les rebelles Séléka commettaient le même type d'atrocité. La FIDH dit avoir recueilli des preuves de crimes, y compris d'exécutions extrajudiciaires, des viols et des recrutements d'enfants utilisés pour combattre lors des récente mission d'enquête en RCA. L'organisation a exhorté le gouvernement à mettre en place une unité spéciale pour enquêter sur les allégations d'atrocités qui, selon elle, constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Dans le nord du Nigeria, un nouvel enlèvement de masse par des islamistes présumés dans l'est, dans l'état de Borno, où plus de 200 collégiennes ont été kidnappées par Boko Haram en avril dernier. Les responsables locaux et les résidents ont indiqué mardi que des hommes armés ont capturé 60 femmes et filles et probablement plus de 30 garçons lors de raids sur plusieurs villages à une centaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale de l'État. Au moins 4 villageois ont été tués lors des attaques. Un responsable de la sécurité a confirmé à la Voix de l'Amérique que des enlèvements avaient eu lieu dans la région, mais il a souligné ne pas savoir combien de personnes exactement ont disparu. Les autorités locales soupçonnent le groupe extrémiste Boko Haram.
Au Sénégal, la justice a relaxé hier le rappeur engagé Malal Tala, qui était jugé pour avoir dénoncé des pratiques de racket au sein de la police. Claire Morin-Gibourg.
Selon son avocat, Maître Mam Adam Gueye, Malal Tala, dont le nom de scène est Fou Malade, a été relaxé par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge a rejeté le réquisitoire du procureur qui avait réclamé 6 mois de prison ferme. Le rappeur avait été arrêté le 19 juin et placé en garde à vue. Pendant une cérémonie publique, il avait dénoncé des pratiques de racket au sein de la police. Il avait été inculpé d'outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Fou Malade est également connu pour son engagement en faveur de la bonne gouvernance et de l'amélioration des conditions dans les prisons. Il est aussi l'un des responsables du mouvement Yanamar qui avait combattu en 2012 la candidature du président Abdoulaye Wade pour un 3e mandat. Son arrestation avait suscité de nombreuses protestations au Sénégal et sur les réseaux sociaux.
Les Libyens sont appelés aux urnes ce mercredi pour les deuxièmes élections législatives depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Ils manifestent peu d'engouement pour ce scrutin qui se déroule dans un environnement sécuritaire précaire. Jean-Roger Bion.
Seul un quart de la population est inscrit sur les listes électorales et la peur de la violence reste le plus gros obstacle pour ces élections. En matière de sécurité, le gouvernement central a peu d'influence au-delà de la capitale, Tripoli. C'est ce qui explique les combats en cours entre les forces loyales au général rebelle Khalifa Haftar et les islamistes qui contrôlent l'est de la Libye. Haftar a promis un cessez-le-feu lors du vote, mais les milices rivales, dont beaucoup ont été armées par les forces de l'OTAN après le soulèvement de 2011, continuent de provoquer des troubles à travers le reste du pays. Les observateurs se posent des questions sur les défis liés au dépouillement des suffrages et la formation d'un gouvernement après ce scrutin. Il s'inquiète aussi concernant la reconnaissance ou non des résultats par les belligérants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premiers conseillers militaires américains ont commencé leur mission d'évaluation en Irak. Le président Barack Obama a proposé au gouvernement irakien jusqu'à 300 experts pour l'aider à contrer l'offensive islamiste. Le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby, a dit que deux équipes d'opérations spéciales, composées de 40 conseillers qui travaillent déjà en Irak, ont débuté leur mission hier. 90 soldats supplémentaires, transportés par le commandement central des États-Unis, sont maintenant dans la capitale, Bagdad, pour mettre en place un nouveau centre d'opérations conjointes, a-t-il ajouté. 4 équipes de plus arriveront dans les prochains jours, ce qui portera à près de 200 le nombre total de militaires américains. Les États-Unis mènent également une surveillance aérienne en Irak avec 30 à 35 vols par jour pour contrôler les mouvements des militants sunnites.
Après sa visite en Irak, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé hier à Bruxelles. Il doit participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sur les crises en Ukraine et en Irak. Jacques Aristide.
Monsieur Kerry a eu des entretiens hier avec Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, puis un dîner de travail avec ses homologues des 28 pays de l'OTAN pour discuter du prochain sommet de l'Alliance prévu en septembre au Pays de Galles. C'est l'Ukraine qui devrait dominer les discussions aujourd'hui au siège de l'OTAN. Pavlo Klimkin, le nouveau ministre ukrainien des Affaires étrangères, a été invité. Les ministres discuteront de la création d'un fonds spécial pour aider Kiev à renforcer ses capacités de défense. Le président russe Vladimir Poutine a fait un pas mardi vers l'apaisement en levant la menace d'une intervention militaire russe en Ukraine. Le Kremlin a également appelé à un prolongement du cessez-le-feu afin que s'ouvrent des négociations. Le secrétaire d'État américain devrait évoquer aussi sa visite de lundi et mardi à Bagdad et dans le Kurdistan irakien. John Kerry qualifie l'offensive de l'État islamique en Irak et Levant de menace existentielle pour le pays. Il a promis un soutien plus efficace des États-Unis à Bagdad si des progrès politiques sont réalisés, notamment avec la mise en place d'un gouvernement d'union. Après Bruxelles, John Kerry se rendra à Paris.
Des hommes armés ont ouvert le feu sur un avion de Pakistan International Airlines alors qu'il atterrissait à l'aéroport de Peshawar, tuant une passagère et blessant deux autres personnes. Le vol à destination de l'Arabie Saoudite transportait 178 passagers lors de l'incident hier soir. Les autorités pakistanaises sont à la recherche des assaillants dans la périphérie de l'aéroport. L'attaque fait suite à une attaque de grande envergure par des militants islamistes sur l'aéroport de Karachi qui avait tué près de 40 personnes début juin. Suite à ces agressions armées, plusieurs opérations ont été lancées contre les militants dans le nord Waziristan.
Les autorités ukrainiennes disent que des séparatistes pro-russes près de la frontière ont abattu un hélicoptère ukrainien mardi, tuant au moins 9 militaires. L'incident près de la ville orientale de Sloviansk est intervenu moins d'un jour après l'annonce par les rebelles d'un cessez-le-feu temporaire. Une trêve qui devait emboîter le pas sur celle d'une semaine déclarée par Kiev vendredi dernier. Le président ukrainien Petro Porochenko a déclaré dans un communiqué que les rebelles ont violé leur propre offre de paix. Il a également ordonné aux forces armées d'ouvrir le feu sans hésitation en cas d'attaque. Plus tôt mardi, le président russe Vladimir Poutine a demandé aux parlementaires russes de révoquer une résolution permettant l'utilisation de la force militaire de la Russie en Ukraine qu'il avait auparavant favorisée.
En Grande-Bretagne, le procès fleuve des écoutes de presse s'est conclu hier par l'acquittement de l'ex-reine des tabloïds, Rebecca Brooks, et la condamnation de son collègue Andy Coulson, ancien conseiller du Premier ministre David Cameron. Des précisions avec Michel Joseph.
Après 130 jours d'audience sur ce gros scandale politico-médiatique, le verdict était très attendu. Pour décrocher ses scoops, News of the World, du mania de la presse Rupert Murdoch, avait placé sur écoute téléphonique plusieurs célébrités comme le prince William et Kate Middleton. Ce tabloïd a été fermé dans la précipitation à l'été 2011. L'ancien rédacteur en chef Andy Coulson, ancien directeur de la communication de David Cameron, apparaît comme le grand perdant. Il a été reconnu coupable pour au moins un chef d'accusation et encourt une peine de prison. Son ancien employeur, le premier ministre David Cameron, a présenté ses excuses. L'autre ancienne rédactrice en chef du News of the World, la flamboyante rousse Rebecca Brooks, a été blanchie et 4 autres accusés ont été acquittés. Rupert Murdoch n'a pas immédiatement réagi.
Vous écoutez l'émission matinale de La Voix de l'Amérique, Le Monde aujourd'hui. Nathalie Barge en direct du Studio 13 à Washington. Dans l'extrême nord du Cameroun, les autorités intensifient leurs opérations contre les infiltrations du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Un responsable local de la gendarmerie, cité par l'AFP, a fait état de 8 militants présumés abattus près de la frontière nigériane dans la nuit du 23 au 24 juin. En outre, plusieurs personnes ont été interpellées à Maroua dans le cadre de ces efforts. Timothée Donangmaï a joint le maire du premier arrondissement de cette ville, Amadou Amidou.
Je ne peux pas vous dire avec affirmation que effectivement c'est les membres de la secte Boko Haram, mais ce que je sais, le gouvernement a pris des dispositions draconiennes, n'est-ce pas, pour lutter contre cette secte Boko Haram qui terrorise nos populations. C'est la raison pour laquelle il y a eu une descente des forces de l'ordre au niveau du centre artisanat et que les interpellations ont eu lieu. Et je crois que nous maîtrisons parfaitement la situation.
Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été interpellées lors de l'opération?
C'est vrai qu'il y a eu environ 40 interpellations, mais quand il y a quand même des rafles dans le marché, on ne sait pas effectivement est-ce que c'est la cible, est-ce que c'est la personne recherchée véritablement. Donc il y a eu 40 environ interpellations et à ce jour, je ne sais pas combien des personnes sont encore entre les mains des forces de sécurité. Mais néanmoins, il y a eu certains qu'on a eu quand même à relâcher après enquête.
Maroua n'est pas très loin du Nigeria. Qu'est-ce que cela représente comme défi en matière de sécurité pour votre ville?
Vous savez, on n'avait pas l'habitude de vivre véritablement cet événement. De plus en plus, la population elle est consciente de l'enjeu, elle est consciente de l'action du gouvernement. Et j'avoue très sincèrement que la population, elle coopère aujourd'hui parfaitement, n'est-ce pas, avec les actions du gouvernement. Parce qu'au départ, elle était trop réticente, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement a prises, les différentes réunions que nous avons eues, je crois qu'aujourd'hui, la population a compris véritablement son implication et tout le monde veille à ce que cette situation soit réglée au plus vite.
On sait que les attaques de Boko Haram poussent beaucoup d'habitants du Nigeria à fuir, notamment vers le Cameroun. Est-ce que vous en recevez à Maroua?
Je ne peux pas à ce jour vous dire si nous en recevons parce que nous sommes à plus de 120 km et que les populations et même les forces de l'ordre sont en train de faire un travail très formidable que nous apprécions d'ailleurs. Et aussi, il y a des barricades un peu partout, des contrôles. On n'admet pas aux étrangers de pénétrer très facilement dans la ville de Maroua. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y a eu immigration dans la ville de Maroua. Je ne suis pas vraiment bien placé pour vous le dire, mais je sais que le gouvernement et les forces de l'ordre maintiennent la situation.
C'était Amadou Amidou, maire du premier arrondissement de Maroua dans l'extrême nord du Cameroun.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
En République centrafricaine, calme précaire à Bambari, suite à la tension dans cette ville du centre du pays où une vingtaine de personnes ont été tuées et des maisons ont été incendiées. L'ONU a appelé les partis à déposer les armes. Pour un bilan des 2 jours d'affrontement, Idriss Fall a joint Joseph Zoundeko, chef d'état-major des Séléka à Bambari.
Oui, je suis général de brigade Zoundeko Joseph, chef d'état-major de la force républicaine, ex-Séléka.
Qu'est-ce qui s'est passé à Bambari ces 2 derniers jours?
Démenti formel d'une information reliée par le journaliste Junior Lingangé à 19h sur BBC. Information selon laquelle 15 chrétiens ont été tués par les ex-Séléka est archi faux, car ce sont les populations civiles et les parents des 18 victimes exécutées par les anti-Balaka qui ont causé ce dérapage. Au contraire, nous avions totalisé 19 morts, 18 morts hier et un corps calciné découvert aujourd'hui, ce qui fait en tout 19 musulmans qui est reconnu par les forces MINUSCA, les personnels civils de la MINUSCA, le vicaire de l'Église catholique et l'imam de Bambari. Il y a aussi 22 maisons incendiées par les anti-Balaka et des personnes disparues également.
Mais qu'est-ce qui a été la cause de ces affrontements alors?
C'est l'attaque des anti-Balaka sur le petit village qui se situait à 9 km au sud de la ville de Bambari. C'est avant Liwa. C'est un village du nom Ache Ado Ndjobdi. Ado Ndjobdi. C'est un petit village de Tulu.
Est-ce que le calme est revenu à Bambari maintenant?
Pour l'instant, le calme est revenu à Bambari.
C'était Joseph Zoundeko, le chef d'état-major des Séléka à Bambari.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Fraude massive aux examens scolaires au Mali, notamment aux diplômes d'études fondamentales et au baccalauréat. Des fraudes survenues cependant après un renouvellement à grande échelle opéré par la ministre de l'Éducation des premiers responsables de gestion de l'appareil éducatif. Au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale hier, le député Brahima Beridogo a interpellé la ministre togola Jacqueline Marinana sur la débâcle des examens de fin d'année. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, a suivi ces vifs échanges au Parlement.
Pour cette séance d'interpellation, le député Brahima Beridogo de l'opposition avait des questions à poser au ministre de l'Éducation nationale.
Au vu de la cacophonie sans précédent suite à la fuite des sujets d'examen du DEF et du baccalauréat, l'opération de renouvellement opéré a-t-elle été menée avec le discernement et le réel souci de compétence et d'efficacité qui aurait dû y présider? Si oui, qu'est-ce qui explique cette fuite massive? Les diplômes délivrés dans ces conditions sont-ils crédibles? Comment compte Madame le ministre gérer ce problème et assainir de manière générale son département?
Les fuites de sujets et les fraudes lors des examens ne datent pas d'aujourd'hui. C'est ce que pense le ministre de l'Éducation nationale, Jacqueline Marinana Togola.
La fuite des sujets du DF 2014 est celle qu'on observe depuis 20 ans au Mali. Elle n'est pas nouvelle à ce que je sache. Si cette année, il y a eu tout ce bruit, tous les examens, c'est parce qu'au département, nous avons infiltré des milieux, ratissé des cybercafés et trouvé parmi des dizaines de faux sujets qui font aussi l'objet d'un commerce juteux en période d'examen.
La patronne de l'éducation dit avoir engagé une lutte sans merci contre toutes sortes de fraudes. Elle a présenté aux élus de la nation les fruits de son premier combat.
Ceci est un ordinateur saisi sur les fraudeurs que vous pourrez avoir à disposition, honorable Beridogo. Et j'ai sur moi une longue liste d'élèves qui avait déjà passé au DF et au baccalauréat avant la programmation des résultats. Et nous avons retrouvé la somme de 7 millions déjà qui a été collectée avec les parents d'enfants, avec tout ce qui était intéressé. Donc, 350 000 francs par élève.
Les députés de Kadjolo pensent que le renouvellement à grande échelle opéré par le ministre de l'Éducation, des premiers responsables de la gestion de l'appareil éducatif, n'est pas pour rien. Birima Beridogo.
Si vous voulez un sujet, vous payez 3 000 francs, on vous l'envoie. Et sur votre téléphone, et ce numéro, on vous l'a donné, madame le ministre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Il y a bel et bien fuite au niveau du bac. Des centres ont eu des retards de plus d'une demi-journée. Des candidats ont commencé à la lueur des bougies. Les lampes à pile, ce qu'on appelle communément les torches. Les écrans de téléphone qui étaient interdits. On a tout oublié de mettre les téléphones pour composer. Et nous avons vu sur le terrain, les sujets ont circulé d'une académie, des académies au centre d'examen, en dehors des enveloppes.
À la fin de cette interpellation, les députés veulent mettre en place une commission d'enquête sur les mots qui mine l'école malienne, car sa gestion doit sortir des considérations politiques. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, il y a un an, l'ONU intervenait au Mali. Quel bilan pour la MINUSMA? Au programme également, le nécessaire suivi de la Coupe du Monde au Brésil. Rendez-vous donc avec nos invités ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. On retrouve tout de suite le journal de la Coupe du Monde présenté depuis Brasilia par Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de La Voix de l'Amérique au Brésil.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. Quelle tristesse ce matin pour les Africains, la Côte d'Ivoire éliminée par la Grèce ne verra donc pas les huitièmes de finale. Quelle soirée cauchemardesque pour les éléphants qui n'avaient besoin que d'un match nul pour poursuivre l'aventure dans cette Coupe du Monde brésilienne. Hélas, les dieux étaient avec les Grecs. Ils se sont réveillés dans ce dernier match pour l'emporter 2-1. Le but de la victoire a été inscrit sur pénalty dans les arrêts de jeu suite à une faute peu évidente sur Samaras dans la surface de réparation. Didier Drogba était titulaire pour l'occasion, mais ça n'a pas suffi. Comme en 2006, en 2010, la Côte d'Ivoire rentre à la maison dès le premier tour. Dans la foulée de cette élimination, hier soir, Sabri Lamouchi annonce qu'il ne prolongera pas l'aventure ivoirienne. La nuit a donc été bien triste à Abidjan, comme l'a constaté notre correspondant Germain Dri.
Les Ivoiriens sont déçus de la prestation des éléphants face à la formation grecque. Pour eux, la défense de leur équipe a été défaillante. Guillaume Koulibaly.
Toujours le même problème, c'est la défense. Vraiment, le pénalty. Je pense que c'est un coup de pouce de l'arbitre.
Sanogo Ahmed pense que tout devrait se jouer à la première mi-temps.
C'est la première mi-temps qu'on a joué mal. On a découragé même. Moi, je suis découragé.
Abaka, qui est au premier. Très déçu de la prestation des Ivoiriens.
Djumani Chimoko. Il s'est abattu. Il pouvait gagner la Grèce. La première mi-temps, on n'a pas vu les éléphants jouer.
Pour Alain Diomandé, ce sont les éléphants qui sont incompétents.
Ce sont les Ivoiriens qu'on m'a joué, c'est tout. L'arbitrage n'était pas mal. N'ont pas été compétents.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Merci Germain. Autre réaction ce matin, celle de Benoît You de l'ASEC Mimosa. Il estime que les stars des éléphants tels que Drogba ou Yaya Touré n'ont pas joué leur partition.
C'était très difficile. La Grèce a marqué d'entrée dès la première mi-temps. Donc, il y a eu beaucoup de tension. Il y a eu de la joie lorsque Wilfried Bonny a égalisé. Il y a eu beaucoup d'espoir. Et puis ce terrible penalty en fin de match a vraiment endeuillé toute la Côte d'Ivoire. Et c'est triste, ça reste, mais c'est le football. C'est le football et quand on regarde le match, au final, si on essaye d'être un peu lucide, c'est pas immérité que la Grèce l'emporte.
Oui, c'est pas immérité parce qu'ils ont eu quand même des contre-attaques assez brillantes.
Oui, ils ont eu surtout 4 poteaux au transversal. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'a pas joué à son niveau. Et notamment, selon moi, ses meilleurs joueurs, qui sont Yaya Touré, Didier Drogba, n'ont pas apporté que doit apporter un grand joueur dans une équipe. Quand on regarde l'équipe d'Argentine, Messi joue son rôle. Quand on regarde d'autres équipes, Benzema pour la France ou d'autres joueurs, à un moment, il faut que les grands joueurs remplissent leur mission. Je pense que je pense que Gervinho a joué à son niveau. Par contre, les deux autres grands joueurs ivoiriens, Drogba et Yaya, n'ont pas su apporter ce qu'il fallait.
Et dans ce groupe C, les Ivoiriens terminent avant-dernier devant le Japon qui a été sèchement battu 4-1 par la Colombie qui termine première du groupe devant la Grèce. Les Colombiens rencontreront en 8e un adversaire qu'ils connaissent bien, l'Uruguay. Les Sud-Américains ont éliminé les Italiens, réduits à 10, score final 1-0. Suarez a mordu un adversaire et la squadra Azzurra crie toujours au scandale. C'est la deuxième Coupe du Monde d'affilée où l'Italie est éliminée dès le premier tour. Le Costa Rica, premier du groupe D, est déjà qualifié, a fait 0-0 contre l'Angleterre, déjà éliminée. Les Grecs seront donc les prochains adversaires des Costaricains. Voici à présent le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Gouet. Il revient sur cette élimination de la Côte d'Ivoire, mais aussi des grands d'Europe que sont l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne.
We celebrate the best African football. No, voilà.
Bonjour. L'hémorragie se poursuit pour le continent européen qui perd son représentant le plus titré. L'Italie aux 4 étoiles, poussée à la sortie par une rugueuse équipe d'Uruguay. Après le champion en titre l'Espagne, Iniesta, le lauréat anglais de 1966 et probablement le séduisant Portugal de Cristiano Ronaldo, la sortie des ténors dès la phase de groupe relance la polémique autour du tirage au sort et de la nomination des têtes de série controversées qui aboutit à la formation de groupes déséquilibrés, favorables aux uns, suicidaires pour les autres, avant le début de la compétition. En attendant, l'Afrique tout entière a eu pour son représentant ivoirien les yeux de chimène lors du match couperet qu'il a opposé à la malicieuse équipe grecque du vétéran Karagounis, rescapé de la sélection championne d'Europe en 2004 au Portugal. Réagissant au collectif tactique des Grecs, excellent en contre, les éléphants ont opposé un jeu en accélération successive face les joyaux de jeu que sont Gervinho, Kalou et Yaya Touré, pas toujours bien récompensés. Un pénalty assassin de Samara sera mettre fin au rêve africain à l'ultime seconde du temps réglementaire. Tous les espoirs désormais sont tournés vers le Nigeria et l'Algérie. À demain.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. À suivre ce mercredi, une autre équipe africaine qui tentera d'accéder au tour suivant. Dans le groupe F, le Nigeria affronte le favori argentin de Lionel Messi. Là encore, les Super Eagles n'ont besoin que d'un point pour se mettre à l'abri de l'Iran qui joue contre la Bosnie-Herzégovine. Dans le groupe E, la France affronte l'Équateur pour conforter sa première place. La Suisse, elle, jouera contre le Honduras. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde préparé ce matin par Bagassi Koura et Nicolas Pineau. Nathalie et tous les fidèles de La Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com. À ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde.
Merci Nicolas. Et à présent, la page musicale. Alors toujours dans le sillage de la Coupe du Monde de football, nous avons opté pour la nostalgie avec le chanteur nigérian Fela pour son titre Echo. Il est. Alors en espérant que cela puisse remonter le moral aux Ivoiriens et nous en profitons pour souhaiter bonne chance au Nigeria qui doit affronter un gros morceau aujourd'hui, l'Argentine. Voilà, on se quitte sur ce rythme afro-funk. Donc, la mise en onde de cette édition a été assurée par Anne Albertson. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et sur le site de La Voix de l'Amérique. Très bonne journée à tous.